Radio Primitive et Galaxy Pop présentent Jurassic Park, le format court qui t'en dit long sur la préhistoire de tes artistes préférés.
Made in USA.
Dans l'épisode précédent,
dès le début, les gens lui ont cherché des poux. Un succès pareil cache forcément un loup. Video Games qualifié de creux et de n'avoir aucun sens. La taille de ses babines. La chanteuse a malheureusement loupé sa prestation. La ressemblance troublante entre sa chanson Video Games et un titre de la chanteuse grecque Eleni Vitali.
Mais comment vous prenez ce genre de critique, vous ?
Je m'en carre le cul.
Elle éprouve très tôt un intérêt pour les années 50 et 60 et écrit ses premières chansons dès l'âge de 12 ans. Elle découvre le songwriting et piche qu'avec ses 6 cordes, elle peut écrire 1 million de chansons. Et c'est ce qu'elle fera. Celle que l'on nomme désormais Lizzy Grant finalise la même année son premier album, Sirens, sous un nouvel alter ego du nom de May Geller. Malgré le jusqu'au boutisme du projet, Sirens ne dépasse pas le stade des exemplaires promo destinés à la presse. L'album finit donc au fond d'un tiroir. Et je suis obligé de faire un premier arrêt pour expliquer le fond de ma pensée.
Pretty exciting to have made it all the way to the finals. I hoped that I would, and I think we all agree that we wish it could last even longer because we've had such a good time. Everybody's been so much fun. Everybody's so good. So it's a nice thing to be here. I've met people who know that music is the only thing that they want to do with their lives, and that's always reassuring to me.
Après l'épisode May Geller / Sirens, Lizzy Grant va se lancer sur plusieurs choses à la fois. Et croyez-moi si je vous dis que c'était un joyeux bordel de tenter de remettre de l'ordre dans tout ça. Elle pratique d'abord l'envoi intempestif de maquettes auprès des radios locales et des web radios, en particulier Nefarious Bovine Radio Show, un podcast mettant en avant des artistes indés. Sean, le programmateur de l'émission, n'hésitera d'ailleurs pas à partager ses archives avec la fanbase de Lana après le succès de Video Games. La jeune artiste continue à se produire régulièrement sur scène, tantôt en tant que Lizzy Grant, tantôt en tant que May Geller. En janvier 2006, elle fait une rencontre qui va la booster, celle de Bob Leon. C'est à lui que nous devons la découverte de Lady Gaga. Il va la prendre sous son aile et en particulier l'encourager à participer à divers ateliers d'écriture et à des concours, l'aidant à financer les frais d'inscription de certains d'entre eux, dont un qui va changer son destin, mais nous y reviendrons.
On va mettre la charrue avant les bœufs, hein.
Courant 2006, elle démarre l'enregistrement d'un nouvel album, Relax 27, avec l'aide de son petit ami Steven Mertens et d'un certain Paolo Di Gregorio. Mais un événement va court-circuiter son entreprise et tout ce qu'il restera de ses sessions est une mixtape compilant les quelques titres enregistrés, The Phenomena of Lizzy Grant, qui sort début 2007, totalement hors contexte.
Non, on va mettre la charrue avant les bœufs, hein.
Et moi j'ai envie d'aller au bout de voir ce qui se passe.
Vous allez comprendre. Retour en septembre 2006, Lizzy participe au Williamsburg Live Competition, dont vous avez entendu un extrait en début d'épisode, un tournoi qui bénéficie d'une belle couverture médiatique, journaux, télévision, compilation et tout le tintouin. Ouais, tout le tintouin. Elle ne gagne malheureusement pas le concours, mais cette compétition va marquer un tournant dans sa vie. Nous y voilà. Elle est repérée par Van Wilson, découvreur de talent chez Five Point Records. Cet homme et David Nichtern, fondateur du label, cernent l'univers artistique et le potentiel de la jeune artiste. Une avance de $10,000 lui est accordée pour démarrer l'enregistrement de maquettes dans de meilleures conditions et enfin, trouver un producteur adéquat pour un premier album commercialisable et rentable. Elle profite de cette avance pour dans un premier temps se loger dans un mobilhome, dans un parc à mobilhome, dans le New Jersey, on est vraiment dans le cliché, je vous le confirme. Dans un second temps, comme convenu, elle enregistre du matériel avec l'aide de son boyfriend Steven Mertens. De ses sessions résulte un énième EP qui sort du four quelque part en 2007, No Kung Fu. La maquette de 7 titres est envoyée à pléthore de producteurs, celle d'Hill. Elle continue en parallèle ses études de philo et fait du bénévolat dans une réserve indienne de l'Utah. Entre temps, No Kung Fu fait son chemin jusqu'au mirette du producteur David Kane, et si vous ignorez qui est ce monsieur, ce qui était mon cas, il a entre autres travaillé avec Tony Bennett, les Bengals, No Doubt, Cher, New Order, Bruce Springsteen et Paul McCartney.
C'était l'instant Beatles.
David Kane, par souci de respect envers la jeune artiste et pour savoir quelle direction prendre, va lui demander ce qu'elle attend de lui et si elle a une quelconque idée de l'album qu'elle souhaite fabriquer. La chanteuse a l'air de savoir ce qu'elle veut. Premièrement, ne pas dénaturer son image et sa musique. Secondo, deux points, ouvrez les guillemets. J'ai dit à David que je voulais que ça sonne noir et blanc, famous, Coney Island et comme une fête triste. Kane capte tout de suite quelle direction prendre et je sais pas comment il a fait avec ses explications lunaires. Bref, le duo passe ses nuits en studio pendant 3 mois et enregistre les 13 titres d'un album qui pour l'instant s'appelle God Bless America. Fun fact, Lizzy rencontrera brièvement Paul McCartney dans le studio, qui la consolera après qu'elle ait demandé à Kane d'utiliser le même clavier que l'ex-Beatles pour son propre album, ce qui lui sera refusé.
C'était l'instant Beatles.
Le 25 février 2008, entre 18 et 19h, c'est très précis, Kane réalise les masters finaux. La galette est prête à être envoyée à Five Point Records.
J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est
Effectivement, la galette est très bien faite, mais il va falloir ajouter beaucoup de beurre pour qu'elle glisse enfin dans les oreilles des consommateurs. La sortie de l'album rebaptisé Nevada est annoncée pour le 14 février 2009, mais un enchevêtrement d'événements va repousser sa sortie à janvier 2010. Primo, après le mastering de l'album, genre l'étape finale quoi, Lizzy souhaite retourner en studio enregistrer d'autres titres, une trentaine, rien que ça, pour au final se voir refuser la moindre retouche sur la tracklist initiale, puisque le label ne souhaite pas mettre plus d'argent sur la table et changer quoi que ce soit au produit tel qu'il aura été présenté. Nota bene, plusieurs de ces démos serviront d'ébauche à l'écriture de Born to Die. Avec Lana Del Rey, rien ne se perd, tout se transforme. Ne voyant pas l'aboutissement avec son label et étant sous contrat, Lizzy commence à trouver le temps long et souhaite publier de la musique envers et contre tout, peu importe où, peu importe comment. Elle se rebaptise donc brièvement Sparkle Jump Rob Queen et sort un EP sur Reverb Nation. Bon, tout ça reste somme toute confidentiel, mais ça démontre un certain tempérament. Secondo, alors que l'album est à deux doigts d'être publié, iTunes leur suggère de sortir un single en amont. C'est ainsi qu'apparaît Kill Kill sur les plateformes en octobre 2008 et il s'agit là de sa première trace discographique officielle. Le EP est salué par la presse, les critiques sont dithyrambiques et unanimes, c'est un petit bijou. L'univers cinématique hashtag David Lynch hashtag Surf Noir impressionne la presse musicale. Fin 2008, le single permet même à Lizzy de se classer parmi les 10 meilleurs artistes émergents selon iTunes. Il amène également la chanteuse à une nouvelle étape de sa carrière d'artiste, la fabrication de ses premiers vidéoclips sur sa propre chaîne YouTube. On y retrouve déjà l'imagerie et la dialectique qu'elle développera quelques années plus tard avec plus de savoir-faire et de talent, mais l'essence est là. Et cerise sur le gâteau, les prestations live de Lizzy Grant and the Phenomena ne sont pas en reste, elles sont même carrément un must-see d'après la presse musicale. Désormais, Lizzy Grant n'est plus à présenter. Elle est reconnue par la presse spécialisée qui commence à s'impatienter et la questionne sur la suite de Kill Kill qui tarde à arriver.
Aujourd'hui, nous allons parler du proverbe « il faut battre le fer pendant qu'il est chaud ».
Dans la vie, il y a des checkpoints, des moments où c'est le moment d'eux. Mais Lizzy Grant, lassée d'être Lizzy Grant, ne veut plus qu'on l'appelle ainsi. Va s'engager un turnover de pseudos qui vont dérouter les journalistes, qu'elle va balader pendant quelques mois, se faisant appeler un coup Lana Ray, puis Lana Ray Del Mar, et enfin Lana Del Rey. Mais attention, subtilité orthographique, Ray, R-A-Y, contraction de Lana Turner et de la Chevrolet Del Rey. Et on peut dire que le moment était très mal choisi. Five Points vient de lancer la presse à CD d'un album de Lizzy Grant, pas de Lana Del Rey, R.A.Y. La production est une nouvelle fois interrompue, le temps de trouver une solution qui est très simple finalement, l'album n'aura pas de sortie physique et ne sera disponible qu'en version dématérialisée. En janvier 2010, soit plus d'un an après l'apparition de Kill Kill, l'album sort enfin sur les plateformes sous le titre Lana Del Rey aka Lizzy Grant.
Aujourd'hui, nous allons parler du proverbe « il n'y a pas de fumée sans feu ».
Ah d'accord.
Ça n'étonnera personne, le disque mènera une discrète existence, tardant à arriver sous un pseudo somme toute inconnu avec un titre pas ouf et une disponibilité limitée au marché dématérialisé. Malgré tout, Lana se prête au jeu de la promo et répond aux questions timidement, caché derrière une chevelure peroxydée. Mais soulignons quand même que le peu d'articles qui parlent de ce disque n'en disent que du bien. Et pour cause, il est vraiment très bien. On s'en écoutera même un extra en fin d'épisode. En témoigne le webzine The Smudge. Les connotations lyriques sont à la fois sexy et sinistres, tandis que sa prestation vocale est sinueuse. Son innocence déterminée venue tout droit d'un parc à mobilhome, soutenu par des grooves rétro évoquant Nancy Sinatra avec une attitude jazz. Ses messages visuels sont dangereusement séduisants. Vous ne pourrez pas quitter ces chansons sans leur donner votre propre signification personnelle. Ou encore cette analyse de Steve Bateman pour Repeat Fanzine. Hawaïen, glam et surf noir ne sont que quelques-unes des étiquettes que Lana Del Rey, de son vrai nom Lizzy Grant, a utilisées pour résumer ses chansons délicieuses, hypnotisantes et nostalgiques, impeccables tant dans la composition que dans l'interprétation. Sa musique, sa voix et ses paroles vont de pair. Le disque sonne en noir et blanc, Famous comme Coney Island et comme une fête triste. Ça me rappelle un truc. Mais le clou du spectacle, enfin devrais-je dire le clou qui scellera le cercueil de cet album au destin funeste, c'est la demande express de Lana Del Rey et de son nouveau manager de le faire retirer de toutes les plateformes 3 mois après sa sortie.
Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes.
Pour diverses raisons, Lana ne souhaite plus voir apparaître ce disque en ligne et on peut dire que ce syndrome du cul entre deux chaises sera assez manifeste jusqu'au succès de Video Games. Entre 2010 et 2011, elle va créer une multitude de comptes YouTube, SoundCloud et MySpace où elle publiera des morceaux pour les retirer quelques jours, semaines ou mois après leur publication. Pourquoi ? C'est un mystère. Outre la musique, Lana va également pour la première fois en juin 2010 tourner dans un court-métrage Poolside. Elle y est créditée, tenez-vous bien, en tant que Lizzy Grant. Quand je vous dis que les pièces du puzzle ont été particulièrement difficiles à emboîter, il faut me croire. En plus de son interprétation impeccable, le réalisateur Aaron Pierce saluera son investissement dans l'aventure. Il s'agit là de sa dernière péripétie artistique sur le sol américain avant le succès de Video Games. Lana déménage à Londres courant 2010, je cite. « J'ai déménagé à Londres parce qu'il y avait beaucoup de producteurs qui voulaient travailler avec moi. J'ai écrit à LA et New York, mais parce que ce que je fais est plus sombre et plus classique que la plupart des standards pop américains, Londres est le bon endroit pour moi. Ils n'attendent pas de moi que je fasse des trucs stupides ici. Tout est question d'intelligence. » Les États-Unis, patrie de tous les possibles, a aussi ses limites. Beaucoup d'artistes américains ont plus de succès et sont pris plus au sérieux en Europe. C'est le cas des Sparks par exemple, dont j'ai déjà parlé dans un épisode. Je vous vois venir ceci dit. Remballez votre chauvinisme. Quand je dis Europe, je parle Angleterre, Belgique, Allemagne. Pas France, toujours à la bourre, qui s'offusque encore d'un mec peint en bleu au milieu d'une corbeille de fruits. Pendant une année, Lana va travailler d'arrache-pied dans divers studios, avec divers producteurs, et commencer à se faire un nom. Elle sera même invitée en guest en septembre 2010 par le groupe de rock suédois Mando Diao lors de leur MTV Unplugged en Allemagne. Elle y chante deux titres, dont un en solo, Chet Baker.
Stop your crying now, little boy, 'cause I know a place that you will enjoy is a place that's full of diamonds and toys, and Chet Baker's playing trumpet there. So go there now with joy. Yes, go there, don't fail. 'Cause Chet Baker's playing trumpet alone for you.
Malgré cette première télé remarquée, le succès et la reconnaissance tardent à arriver, mais Lana Del Rey n'est pas découragée pour autant. Elle sort régulièrement des clips sur sa chaîne YouTube jusqu'à ce fameux 5 mai 2011 où elle publie un titre qui va rapidement atteindre des sommets de vues sur YouTube. Enregistrée presque un an plus tôt aux côtés de Justin Parker, la chanson trouve enfin le public et la carrière de Lana décolle comme une fusée. Il est intéressant de noter que ce titre, comme les précédents, a été posté sur sa chaîne YouTube sans davantage de promo, ce qui pour moi répond à la question suivante, Lana Del Rey, artiste ou coup marketing? Le mieux est encore de laisser David Kane répondre à la question. Cet extrait est issu d'une interview qu'il a accordée au site lanadaily.com au sujet de l'enregistrement de Lana Del Rey à Calizy Grant. C'était bien de travailler avec elle. Nous travaillions seuls la plupart du temps car c'était un album à petit budget. Vers la fin, nous nous sommes davantage tournés vers la programmation de beats. Je voulais qu'elle joue de la guitare car elle avait une façon vraiment différente de choisir les notes. Il y avait des accords vraiment intéressants quand elle devait s'accompagner elle-même. J'ai découvert beaucoup d'accords intéressants en me basant sur les indices harmoniques qu'elle donnait dans ses parties de guitare. Elle a une volonté très forte et s'accroche à ses idées avec ténacité. C'est le genre de choses que j'aime chez les artistes avec qui je travaille. D'après mon expérience avec elle, elle a fait ce qu'elle voulait et ne s'est pas écartée de sa vision. Ça me paraît clair. Et à la question Lana Del Rey, real ou fake? Je cite. Toutes les choses sont réelles et ne le sont pas, moi y compris. Coney Island est un endroit où les gens vont pour s'échapper, mais quoi que vous choisissiez d'être, votre réalité est votre réalité. Donc d'une certaine manière, c'est tout aussi réel que n'importe quoi d'autre. Je laisse principalement mon imagination être ma réalité. Le fantasme est ma réalité. Dixit Lana Del Rey herself dans le Huffington Post en février 2009. Lizzie Grant, aka Majeller, aka Sparkle Jump Prop Queen, aka Phenomena, aka Lana Del Rey R.A.Y. a annoncé la réédition de l'album de 2010 après l'ère Born to Die, mais que nenni, il reste encore aujourd'hui introuvable sur les plateformes de streaming. Il existe bien quelques pressages pirates en vinyle et CD qui traînent ici et là à des prix exorbitants,
mais ça c'est le jeu de l'offre et de la demande, ma bonne dame.
Tout ça ne nous empêchera pas de nous quitter avec un extrait de ce disque que je vous conseille, il est très facilement trouvable.
Ouvre ton moteur de recherche préféré et tape Lana Del Rey, R-A-Y, aka Lizzie Grant, album download.
Avant de nous quitter en musique et de sceller cette saison 3 de Jurassic Park, j'aimerais ajouter un dernier truc.
Je dis non !
Je dis si. La performance artistique est là pour expérimenter les contradictions et les pulsions qui nous habitent, nous interrogent et nous terrorisent dans un contexte safe et fictionnel. Elle n'a pas vocation à être belle, bien que souvent esthétique, à divertir ou à devenir un bien de consommation, même si aujourd'hui le mélange des genres crée une dissonance cognitive à ce propos. Elle nous permet de nous confronter sans pour autant avoir de conséquences réelles, de nous interroger sur nos valeurs sans pour autant nous imposer une opinion ou en faire une valeur absolue, du moins quand on la regarde avec le recul et l'esprit critique qu'on est censé avoir face à une performance artistique. Car finalement, n'est-ce pas là tout le fond du débat concernant l'art? Est-il un doudou là pour nous réconforter dans nos a priori ou pour nous faire réfléchir? L'art n'est-il pas plus puissant et ne laisse-t-il pas une empreinte plus conséquente lorsqu'il bouscule nos systèmes de pensée et de valeurs que lorsqu'on s'inflige du bon sentiment où tout se règle avec un claquement de doigts et des embrassades, ce qui pour le coup m'apparaît vraiment comme l'équivalent de la quatrième dimension lorsqu'on cherche à le calquer à la réalité. Ne devrait-on pas, au final, prendre ce que les artistes ont à nous offrir en nous estimant chanceux d'avoir cette pluralité des visions du monde, cette possibilité de le lire un peu différemment à travers le regard de l'autre, sans pour autant juger à outrance, alors que nous ne sommes, pour bon nombre d'entre nous, ni sociologues, ni philosophes, ni étudiants en histoire de l'art. Arrêtons de voir le mal partout et d'interpréter avec nos propres canaux une œuvre qu'un artiste a pensée d'une façon et qui de surcroît a autant d'interprétations possibles qu'il y a de gens pour l'interpréter sur la planète, soit 8,16 milliards, ça donne le vertige. Je ne nie pas le fait qu'on ne se retrouvera pas sur des concepts globaux, mais quand on sait que quand on regarde du rose on ne voit pas tous le même rose, que les daltoniens voient le rouge vert, et que certains voient le verre à moitié vide, quand d'autres le voient à moitié plein, ça vous donne une brève idée de toute la complexité d'une interprétation. Une performance artistique est une proposition. Take it or leave it.
Up the stairs, I'm in the shower. Do you know I'm going to leave you? Do you know I am going to leave you?
Venez d'écouter l'épisode 10 de la saison 3 de Jurassic Park. Il est dispo en replay sur le site off de La Prime et sur les applis courantes de podcast. Si ça vous a plu, mettez des petites étoiles sur Apple Podcast ou un mot sympa sur Podcast Addict, ça mange pas de pain et ça met
des paillettes dans ma vie.
À la prochaine et prenez soin de vous.